il revisite l'histoire.
Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
La chronique de Max Power.
Max Power, c'est son nom d'artiste, vous l'avez peut-être déjà compris, mais il est en studio avec nous, on est très content de l'avoir. C'est notre historien autodidacte. Et comment ça va, Max, d'abord et avant tout?
Ça va très bien, très bien, très bien.
Est-ce que tu es venu à bord de ta Pontiac? Parce que là, tu as à bord les couleurs de Pontiac Racing. Ton coton ouaté trahit ton allégeance.
Oui, c'est ça. Non, mais j'ai plus la Pontiac. Là. J'avais un Pontiac G6 GT 2009 pendant longtemps. Là.
Un truc australien, je pense, rebadgé. Est-ce que c'est ça?
Oui, tu penses Holden? À la Holden. Oui, ouais. Effectivement, c'était ça avait des... la génétique de Holden. Non, mais là, c'est parce que je suis influenceur pour Pontiac puis Oldsmobile.
Saturn puis Hummer aussi. Non, Hummer,
wow.
C'est plus tranquille.
Hey, aujourd'hui, en fait, tu es en studio à Max Power pour comme à l'habitude, en fait, nous instruire. Mais tu t'intéresses particulièrement à l'histoire de Honda. Honda, le fabricant d'auto, mais c'est plus que ça.
Ah oui, c'est beaucoup plus que ça. Là. C'est une histoire fantastique, l'histoire de Honda. De fait, là, ils sont partis de la bicyclette pour devenir l'entreprise qui a révolutionné les moteurs à essence et autres. Là, on va en parler.
Le VTEC, notamment, là, qui est un des moteurs les plus, les plus appréciés.
Absolument. Puis quand on pense à Honda, on pense surtout à une Civic, une Accord, une moto, une tondeuse, une souffleuse.
La CRX, la Prélude.
Effectivement, des chars qui ont marqué, l'histoire. Puis c'est, ou encore un souvenir relié à ça. Tu sais, le premier char que tu as eu, c'était un vieux Civic, ou tu sais, le premier char que tu as scrappé, le premier char dans lequel tu as eu un ticket.
Premier French.
Exactement, exactement. Moi, ouais, c'était pas un Honda, par exemple, c'était un... En tout cas, c'était une autre histoire.
Oui. Je ne me souviens pas du nom de la fille, mais je me souviens.
Ouais, le char. Ah,
oui, ouais, c'est du char.
Mercury Cougar XRT 1977.
Ah, ouais, c'est mémorable, ça.
Ah, définitivement.
Jocelyne, est-ce qu'elle s'en souvient autant?
Vaguement. Mais toutes mes anciennes blondes, je pense qu'ils sont devenues lesbiennes.
Max Power, c'est comme le moment charnière.
Mais ce que plusieurs ignorent, là, c'est que Honda est d'abord et avant tout un fabricant de moteurs.
Un motoriste.
Ouais. En fait, Honda est considéré comme le plus grand fabricant de moteurs à combustion interne au monde, avec une production annuelle qui dépasse souvent les 20 millions de moteurs.
Est-ce qu'ils font des moteurs pour d'autres compagnies ou ils font
Non. Ils font des moteurs pour des voitures, des motos, des génératrices, des moteurs marins,
des tondeuses,
des souffleuses, de l'équipement agricole, puis même des avions. Puis tout ça, ça a parti d'un simple vélo. Alors, tu sais, on se remet on retourne dans le temps, là, fermez vos yeux, sauf ceux qui sont au volant. on est en 1945, le Japon vient de perdre la Seconde Guerre mondiale. À peu près 25% des infrastructures industrielles du pays sont détruites. L'essence est rationnée. Les transports sont pratiquement paralysés.
Nagasaki, Hiroshima sont détruites.
C'est jamais bon pour la business. Là. Les gens se déplacent principalement à bicyclette. Puis c'est dans ce contexte-là qu'entre en scène Soichiro Honda. Lui, à la fin de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y a 39 ans. Lui avait grandi dans un petit village de Komio où son père était forgeron puis réparateur de bicyclettes. Fait que les bicyclettes,
c'était dans son ADN.
Ah, définitivement. Très jeune, par contre, il est fasciné par les machines. Tout ce qui bouge, tout ce qui fabrique là, un mouvement. Puis même qu'à 8 ans, il avait parcouru plusieurs kilomètres juste pour admirer une automobile. C'était vraiment une rareté là, dans le Japon rural de l'époque. Puis plus tard, il a dit « L'odeur de l'huile et de l'essence était pour moi le parfum de l'avenir.
» Wow!
Il ne pouvait pas si bien dire. Fait que lui, à 15 ans, il quitte son village pour Tokyo afin de travailler dans un garage. Il cherchait le carbo de la place. Puis pendant des mois, bien, il nettoie les planchers, il lave les outils, puis il fait les tâches.
Sort les poubelles.
Exactement. Puis survient le grand tremblement de terre de Tokyo en 1923. Il y a plusieurs employés qui quittent temporairement l'atelier, Puis lui, il obtient enfin l'occasion de réparer des moteurs.
Une promotion.
Il dit « c'est ma chance ». Puis là, il a vraiment fait sa marque parce que son talent a sauté immédiatement aux yeux de son employeur. Alors, mais avant de fabriquer des voitures, Soichiro Honda, il a construit des voitures de course. Il a participé lui-même à plusieurs compétitions. Puis en 1936, il a été victime d'un accident extrêmement violent. Plusieurs tonneaux. Il a survécu de justesse.
Pas de ceinture, pas d'airbag, là?
Non, ou très peu. Cette expérience a mis fin à sa carrière de pilote, mais a renforcé son obsession, fabriquer des moteurs plus performants et plus fiables. Quelques années plus tard, il a créé une entreprise spécialisée dans les segments de pistons. On va y aller dans le spécifique.
Des niches?
Oui, puis son objectif était pas compliqué. Il voulait devenir fournisseur de Toyota. Toyota a refusé. Il a dit, garde tes pièces, là, c'est de la merde. Ça répond pas à nos normes de qualité. Fait qu'au lieu d'abandonner, Soichiro, il est retourné étudier la métallurgie puis les procédés de fabrication. Il dit, c'est vrai que c'est de la merde, mes affaires, mais je dois savoir pourquoi c'est de la merde puis je vais essayer de faire de quoi qu'il y ait de l'allure. Alors, il a amélioré la composition des alliages, il a perfectionné les traitements thermiques, puis il a réduit les défauts de production. Puis quelques années plus tard, Toyota a dit, correct, tes pièces sont bonnes, c'est plus de la merde. Alors, cette capacité à apprendre de ses erreurs est devenue là, t'sais, sa marque de commerce, là, littéralement. Puis après ça, il y a eu les catastrophes. Son usine est bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est jamais bon pour la business.
Non.
Quelques mois plus tard, le tremblement de terre de Mikawa en 1945 a détruit ce qui restait des installations.
Une série de malchances.
Ouais. Deux catastrophes majeures en moins de 2 ans. Lui, ce qu'il fait, il dit, regarde, on tire une ligne puis on part en neuf. Il revend les débris de l'usine à Toyota. Et avec l'argent que ça lui donne, il repart en affaires. Là, on est en 1946. Le Japon manque de tout. Mais Honda, il remarque une chose. L'armée possède des milliers de petits moteurs de génératrices devenus inutiles. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il les adapte sur les bicyclettes.
Il les récupère.
Oui. L'armée, le Japon vendait les surplus comme tous les pays après la Deuxième Guerre mondiale. Alors lui, il savait comment ça fonctionnait des bicyclettes parce que son père n'avait réparé pendant des années.
Il les a transformées en mobylettes.
Exactement. Alors il fait son premier prototype qui développe environ un cheval vapeur. Ça consomme très peu de carburant.
Ben,
mais
il faut parce qu'il n'y a pas tant de ressources là, sur l'île japonaise.
Ben, c'est ça. Alors pour des milliers de Japonais, c'était une révolution. Ça. Eux autres, ils pouvaient désormais parcourir plusieurs dizaines de kilomètres sans pédaler constamment. Puis lorsque les surplus militaires sont épuisés, Honda a conçu son propre moteur. C'est comme ça qu'en 1948 est née officiellement la Honda Motor Company Limited. Puis l'année suivante, il arrive un homme qui va changer tout, Takeo Fujisawa. Alors, Fujisawa,
c'est un autre qui dit quelque chose, hein?
C'est un stratège. Ouais, c'est les Fujisawa du Saguenay. alors, Honda est un inventeur. Fujisawa, c'est un stratège, c'est un gestionnaire. Un parle de mécanique, l'autre parle de finance puis de distribution. Alors, leur complémentarité, c'est souvent comparé à celle de Steve Jobs puis Steve Wozniak plusieurs décennies plus tard.
Un visionnaire puis quelqu'un qui voyait
qui
ça plus de l'intérieur.
Marché, ouais.
Exactement. Fait qu'en 1958, Honda lance un véhicule qui va devenir une véritable légende, la Super Cub. C'est une petite moto qui se vend encore aujourd'hui, peut-être pas au Canada. Là. Super Cub, là, c'est 125cc. Une boîte semi-automatique qui permet de changer les vitesses sans levier d'embrayage. Alors, résultat, tout le monde peut apprendre à la conduire rapidement. Puis aujourd'hui, ils en ont vendu plus de 100 millions dans le monde.
Bien, assurément. Ça ressemble à une mobylette. C'est comme une moto-mobylette avec un gros muffler.
Entre les deux.
Avec un espèce de frame, un espèce de framing qui te protège les jambes. Tu n'es pas exposé directement.
C'est beau.
Ça a tellement marqué le domaine des transports que la Super Cub est exposée au Musée d'art moderne de New York. Puis ce musée-là présente pas seulement des œuvres d'art, mais aussi des objets qui ont transformé la façon de vivre des Occidentaux ou des Orientaux. Alors, la Super Cub en fait partie. Puis, dans les années 60, Honda s'attaque au marché américain, le gros marché, the market.
Oui, là où il y a de l'argent à faire.
Exactement. Mais à cette époque-là, c'est les grosses motos qui dominent, les Harley-Davidson, les Triumph, les Norton.
Indian.
Alors, ça incarne l'image du sympathisant motard. Alors, Honda arrive à ses petites motos de 50 à 125 cc. La campagne publicitaire qu'ils mettent en place, c'est « You meet the nicest people on a Honda ». Alors, pour changer complètement les mentalités, fait que dans les annonces, on montrait des étudiants, des mères de famille.
Des gens heureux employés, avec les cheveux courts.
Exactement, des gens vraiment cool.
Pas des pouilleux, là.
Non, c'est ça. Eux autres, ils vendaient leur temps. La moto devient alors un véhicule extrêmement accessible, puis plus seulement un symbole de rébellion, parce que là, on était dans les années 60, les hippies puis ces affaires-là. Alors, cette campagne-là est encore étudiée dans les écoles puis, de marketing.
Évidemment, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, c'était pas arrivé encore. Là.
Non, non, c'est arrivé un petit peu plus tard.
C'est arrivé par la suite.
Puis, en même temps, Honda, il relève un autre défi, la Formule 1. Alors, contrairement à plusieurs constructeurs, Honda conçoit lui-même le moteur et le châssis. C'est impensable, parce qu'il y avait... On connaît Lotus qui fait le châssis, puis un autre motoriste qui fait le moteur et la transmission. Alors, en 65,
c'est ambitieux.
Soit seulement un an après ses débuts complets dans le championnat, Honda remporte son premier Grand Prix. Une performance exceptionnelle pour un constructeur aussi jeune. Puis arrivent les automobiles.
Quelle année, ça, les automobiles?
1972.
Okay.
La Civic. Un an plus tard, la crise pétrolière... arrive, 1973.
Bon timing pour Honda.
Ah, définitivement, tu ne peux pas espérer mieux. Le prix du carburant explose. Et le carburant aussi.
Et là, les muscle cars, ça nous tente moins.
C'est ça. Les consommateurs recherchent des voitures économiques. La Civic arrive au bon moment, timing idéal. Elle devient immédiatement un immense succès mondial.
Puis elle est belle, la première Civic, c'est une petite bottine. Là, les gens l'ont trouvée belle en partant.
Il y en a une, il y a quelques mois, j'étais chez l'allié Honda
à Sainte-Foy,
puis il y en a une du côté du service, là, une, je pense, 73 ou 74, elle est vraiment belle. Tu vois que c'est petit par rapport au char.
C'est microscopique.
Alors, son moteur CVCC représente une avancée technologique majeure. Alors, CVCC, ça signifie Compound Vortex Control Combustion. C'est un principe qui consiste à créer une petite chambre de pré-combustion où le mélange air-carburant est plus riche, ce qui permet ensuite une combustion plus complète dans le cylindre principal. Résultat, moins d'émissions polluantes, meilleure consommation. Puis le moteur était conforme aux nouvelles normes américaines qui avaient sorti, là, justement, pour...
les premières normes.
Exactement. Alors, elle reste conforme sans avoir besoin de catalyseur, alors que plusieurs concurrents estimaient que c'était impossible. Alors, cette innovation-là donne à Honda une réputation mondiale de constructeur ingénieux. Parce que le convertisseur catalytique, là, non seulement ça brûle là, les émissions nocives, là, mais ça mange des horsepower aussi. Là. Honda avait réussi à régler ça. Puis les années 80, ben, ils sont souvent considérés comme l'âge d'or de Honda.
Ben, c'est là où on a eu des concessionnaires qui sont établis partout en province. C'est devenu une voiture. C'est devenu un choix sensé, Honda.
Définitivement. Quand Honda avait voulu venir au Canada, il voulait être dans tous les pays. Là, puis il avait approché un homme d'affaires et dit, regarde, on va te donner la super franchise pour le Canada. Puis pour te motiver, là... développe le réseau de concessionnaires, puis on va te donner 5 $ pour chaque Honda qui va être vendu au Canada.
OK, une ristourne.
Ristourne. Ça a été pas mal payant. Alors, dans les années 80, Civic, CRX, Prélude, Integra, Accord, c'est devenu des références.
Oui.
En 89, apparaît une autre innovation majeure, le système VTEC.
Oui, il y a une espèce d'obsession. Là. D'ailleurs, j'ai amené une petite Hot Wheels tantôt, une Civic pour sanctifier ton arrivée comme ça. Mais c'est marqué VTEC sur le côté. Ouais. VTEC s'est rendu une référence. VTEC, c'est un moteur que je pense qui a changé l'allure, surtout dans le tuning.
Oui, VTEC, c'est un acronyme pour Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. En simple, chaque soupape peut utiliser deux profils de cam différents. À bas régime, ça va privilégier l'économie d'essence, ce que la plupart des gens veulent.
Surtout dans une Civic.
Puis les gens en bas de 19 ans, à haut régime, un second profil beaucoup plus agressif augmente la levée des soupapes.
Le moteur, bas de 59, je pense.
C'est ça. Le moteur respire mieux, la puissance grimpe. Le conducteur a l'impression qu'un deuxième moteur prend le relais.
Oui.
Alors chez les passionnés, l'expression « le VTEC embarque », c'est devenu légendaire. Puis en Formule 1 aussi, Honda il connaît des années extraordinaires. Entre 86 et 91, les moteurs Honda remportent 6 championnats du monde des constructeurs consécutifs. Les célèbres McLaren Honda, pilotés notamment par Ayrton Senna, Alain Prost, dominent le championnat. Puis le moteur turbo, le RA168E de 1,5 litres, c'est pas gros, 1,5 litres, c'est ce qu'il y a dans Honda Fit, là.
C'est ça, c'est un tout petit moteur.
Ouais. En qualification, il a développé une puissance estimée à 900 chevaux.
Bien boosté, là, optimisé.
Ah ouais, bien boosté, puis ça dure juste les 4 heures de la course.
Hein? Ouais, c'est ça.
Une valeur impressionnante pour une petite cylindrée. Alors, Honda, il se limite pas seulement aux voitures. Ils disent, on est bon pour faire des moteurs, fait qu'on va en faire dans toutes. Des motos, des VTT, des moteurs hors bord, des génératrices, des souffleuses, des tondeuses, des pompes industrielles, des moteurs pour l'équipement agricole. Il y a même des robots humanoïdes, là, Asimo.
Oui, j'en ai vu dernièrement.
Des avions d'affaires. Ouais, Asimo, là, lui, il était présenté en 2000. Probablement le robot le plus...
achevé.
Le plus célèbre de son époque. Il pouvait reconnaître des visages, monter des escaliers, courir à près de 9 km/h, puis maintenir son équilibre en temps réel, ce qui était une prouesse pour l'époque et plus longtemps. Alors, les technologies développées par Asimo servent encore aujourd'hui dans la robotique puis l'assistance à la mobilité. Puis, depuis quelques années, depuis 2015, Honda a lancé le Honda Jet. Son originalité réside dans les moteurs installés au-dessus des ailes. Alors, ça réduit la traînée aérodynamique, ça diminue le bruit dans la cabine, libère davantage d'espace pour les passagers. C'est une solution technique que très peu de fabricants d'avions d'affaires avaient osé adopter. Puis aujourd'hui, Honda, c'est 190 000 employés. Ça exploite des dizaines d'usines sur plusieurs continents.
Même une usine en Ontario, je crois.
Oui, exactement, l'usine en Ontario. Il y en a aussi beaucoup aux États-Unis. Puis ça, l'arrivée de Honda aux États-Unis puis au Canada, ça a été au début des années 80, quand les autres, ils en vendaient beaucoup des Civic puis des Accord parce que ça prenait pas beaucoup de gaz puis c'était pas cher.
C'était fiable aussi.
Puis les manufacturiers, exactement. Puis les manufacturiers américains, plutôt que dire, ben nous, on va faire des chars qui vont compétitionner avec ça, ils ont fait du lobbying au Congrès, puis ils disent non, nous autres, on veut que tu imposes des tarifs sur les Honda puis les Toyota de ce monde.
Des surtaxes.
Fait que le gouvernement américain dit parfait, on va imposer des tarifs sur les voitures qui sont importées aux États-Unis puis au Canada.
Solution, les construire aux États-Unis.
Exactement. Fait qu'on va construire aux États-Unis, puis c'est comme ça que Honda. Ils ont des usines en Ontario, il y en a en Ohio, puis un peu.
Mais la réponse des fabricants de voitures américaines à Honda, à Toyota, à l'arrivée de ces petites voitures-là sur le marché américain a été, un peu, pas un flop, mais un peu décevant. Tu sais, Plymouth Horizon, toute cette vague-là de...
Qui était
de
Mitsubishi, oui.
Oui, qui étaient souvent des voitures rebadgées ou c'est la Chevette. Moi, j'ai déjà eu une Acadienne qui était, dans le fond, une Opel cadette rebadgée de 73. On était rendu en 86, on vendait encore des chars des années 70.
Bien, la réponse a été faible puis très longue. Parce qu'après le choc pétrolier de 73, les Américains ont commencé à diminuer la grosseur des chars. Entre autres, chez GM, là, tu sais, tout ce qui s'appelait Chevrolet Impala, Bel Air, etc.
Ça a tout été...
Les Cadillac, les Oldsmobile.
Même la Mustang est devenue ridiculement laide avec la Mustang 2.
Ah ouais, la Mustang 2 qui était sur un châssis de Pinto.
De Pinto, Bobcat Pinto, imagine.
Alors, on a essayé ça, puis tu sais, GM avait sorti en 79, avril 79, comme des modèles 1980, les Chevrolet Citation, Pontiac Phoenix, des tractions avant qui étaient absolument épouvantables.
Pas très fiables.
Pas très fiables, c'est ça, c'est pour ça qu'il n'y en a plus aujourd'hui. De plus, de Chevrolet 57 aujourd'hui, c'est route que de Honda Citation 1980, c'est pour dire...
De Chevrolet Citation, oui.
Mais... Fait que Honda, il produit, bon an, mal an, 18 à 20 millions de moteurs, 20 millions de motos, 3 millions d'automobiles. Ces motos, ça, évidemment, sont prédominantes en Asie, où Honda détient depuis longtemps une part importante du marché. Ma fille, elle reste en Indonésie. Et quand elle nous envoie des vidéos, là, de quand elle va conduire les enfants à l'école... Il y a des motos partout.
Oui.
Partout.
Hop, ça circule, ça se faufile. Ben oui.
Ouais. Puis chaque année, Honda dépense des milliards de dollars pour se consacrer au développement des nouvelles technologies, les moteurs électriques, malgré que ce soit, selon moi, juste une mode, les piles à combustion à hydrogène,
les
trucs
hybrides.
Hybrides, oui. Moi, mon prochain char, il va être hybride. Il va consommer... Il va brûler du gaz puis du caoutchouc. les conduites assistées, intelligence artificielle...
Mais Max, toi, t'as déjà eu une Honda... Tu sais, on en parlait, je te connais quand même depuis quelques années. T'as une Honda Fit qui, dans ton passé automobile, je pense, revendique un kilométrage qui est enviable.
Mais j'espère que c'est pas tuable.
438 000 kilomètres. Ouais.
Pour une petite fitte, là.
Pour une petite fitte.
C'était au Japon ou une Mexicaine?
C'était une Mexicaine. Okay. Oui, ouais, c'est surprenant pour une Mexicaine. Toi, t'aimes ça, les latinos.
Oui. Plus les latinos, moi. Camille, les latinos, moi, c'est la latina.
Oui.
Oui, elle était faite au Mexique. Je l'ai eu 10 ans et demi, 438 000 km. Puis, tu sais, c'était. Son seul point négatif, là, c'était qu'à la fin, ça consommait plus d'huile que d'essence. Là.
Ah, OK.
Mais je l'ai revendu, puis. Mais je m'ennuie de la conduite manuelle, ben, ça, là,
c'est une boîte manuelle qui est le fun, qui est amusante.
Oui, oui, effectivement. Alors, pour Honda.
Max Power recommande la FIT.
Ouais. Ben, peut-être des dernières années, là, 2019-2020, là, ils ont probablement réglé ce problème-là. Là. Mais c'est un tout nouveau moteur qu'ils avaient installé en 2015, c'est le Earth Dream,
oui.
1,5 litres.
Tu n'avais pas pris la transmission là, variable, là, CVT, je pense, ou SVT?
Non, mais je n'avais pas de handicap là, qui m'empêchait de vraiment conduire le champ. fait que pour Honda, l'ingénierie demeure le cœur de l'entreprise. Puis Soichiro Honda se plaisait à dire « Le succès ne représente que 1% de votre travail. Les 99% restants proviennent de vos échecs. » Alors, quand on pense à son parcours, ça prend tout son sens, cette phrase-là. Il n'y avait pas de diplôme, une usine bombardée, détruite par un tremblement de terre, des refus répétés.
Ben oui.
Puis plusieurs dizaines d'années plus tard, son nom est devenu un des plus connus de l'industrie automobile. C'est une preuve flagrante qu'une grande entreprise ne naît pas seulement d'une bonne idée, mais d'une incroyable capacité à se réinventer.
Et sauf erreur, aujourd'hui, c'est dans la stabilité des modèles. Il y a toujours des refontes de modèles, mais c'est pas... Honda ne va pas... Ils ont essayé des choses qui n'ont pas fonctionné, mais les grands modèles de la marque ne changent pas trop non plus leur esthétique. T'sais, on reste très conservateur dans l'apparence des véhicules, je trouve.
Oui, puis les noms aussi. Là,
ouais.
Les gens s'habituent à un nom.
On
la Civic, c'est depuis 72. Il y a encore des Civic 2026, la Accord. La Prélude, malheureusement, ils l'ont ressorti comme un char électrique. Ça, c'est un hybride. En tout cas, là,
il y a
un moteur électrique dedans. Là,
c'est une hybride.
C'est un turn-off pour moi.
Mais je pense qu'elle n'est pas très puissante non plus. Là.
Et automatique.
Il n'y a pas manuel.
Non, c'est ça.
Tu t'ennuies des années où est-ce qu'on avait une CRX, des voitures qui avaient un peu plus de caractère?
Et pas si cher que ça. Là, à l'époque, tu achetais, mettons, il y a un de mes chums, là, il avait acheté un Honda Civic 77 en 81, char de 4 ans. Il y avait de la rouille un peu, ça c'était normal pour Honda, ça faisait partie de la game.
Ouais.
Mais tu sais, c'était incroyablement simple. Quelqu'un avec un peu d'imagination qui comprenait le thinking là, de la mécanique était capable de réparer ça avec des pièces pas chères, disponibles tout le temps, partout, puis... Tu mettais une couple d'heures pour faire ta réparation et tu étais correct.
Chose qui est impensable. Alors, en 2026.
Il faut un bac en informatique aujourd'hui pour réparer un char.
Changer un pneu.
Il y a 4000 sensors et il y en a toujours un qui est brisé.
Ah, ça fait sacrer les mécanos, cette nouvelle technologie-là, là, je confirme.
Ah oui, effectivement. Même ça les décourage aussi.
Oui.
Fait que c'est ça. C'est une belle compagnie. C'est comme Toyota là, où tu sais, le plan d'affaires de l'entreprise, c'est pas juste le prochain trimestre. Là, on voit plus longtemps d'avance comparativement à des entreprises comme GM ou Ford.
Toyota demeure quand même beaucoup plus gros que Honda.
Ah, définitivement. Oh, oui.
Si on les compare, les deux compagnies, Honda, c'est un succès planétaire, mais plus humble. En fait, au niveau des unités construites.
Oui, des auto-construites, effectivement. Parce que dans les plus gros constructeurs, là, ils s'échangent de la première et la deuxième place depuis quelques années. C'était Volkswagen puis Toyota, là. Mais Honda est plus loin, effectivement. Mais tu sais, eux autres, ils sont concentrés sur les moteurs. C'est le plus grand manufacturier de moteurs.
Dans leur catalogue, Honda aussi a moins de modèles. On les énumérait tantôt. Ouais. CR-V, Honda Civic, Honda Accord. Il y a plusieurs modèles, mais tu sais, c'est quand même une gamme qui est limitée. C'est le contraire de GM qui a 75 modèles par année, dont 22 nouveaux. Là.
C'est ça.
Il n'y a pas beaucoup de nouveautés chez Honda. On étire le temps.
Bien, ils ont sorti leur voiture électrique là, il y a 2-3 ans, la Prologue, là,
ouais.
qui est un GM rebadgé, là,
parce qu'elle
est faite dans une usine GM, de fait. Là. Puis ça, c'est malheureusement, ça. Je pense que ça va nuire plus que d'autres choses à l'image Honda parce que...
Ça t'a déçu.
Oui, ça m'a déçu.
Des
mais
fans
mais
de la
il y a
marque
la fiabilité aussi.
Aussi
là. On est habitué à des produits fiables avec Honda, là, sauf quelques exceptions dans l'histoire. Là. Mais ça risque de leur faire mal plus que d'autres choses. Ils auraient dû, quitte à la sortir plus tard, là,
innover.
Un propre modèle. C'est un peu comme Toyota. Toyota, il fait ses propres chars électriques, là, mais c'est un programme avec Subaru. Là. Mais là, ils ont sorti il y a quelques jours la première BRZ, oui. Avec une batterie, la Solid State Battery, qui fait 1200 km d'autonomie.
Wow!
10 minutes de recharge.
Hein?
Fait que, tu sais, quand...
long jase.
T'inquiète ton char, là, avec de l'essence régulière, ça prend 2 ou 3 minutes à peu près, là. Alors, 10 minutes, là, c'est, ça se rapproche. Là.
Oui.
T'es pas obligé d'aller reprendre un lunch à tous les fois que tu vas à Montréal, arrêter. Là,
toujours
au Saint-Hubert,
tu sais. C'est ça. Je suis rendu abonné. Est-ce qu'un jour, Max Power aurait l'idée d'avoir une voiture full électrique? Ou, parce que tu sais, on fait quand même quelques blagues depuis ton apparition en studio aujourd'hui, ou c'est quelque chose que tu repousseras jusqu'à ta mort?
Non, non. Non, ça me dit rien. Moi, j'aime ça d'entendre le moteur gronder, là, t'sais, sentir l'exhaust. Là, c'est...
Puis là, ben, c'est sûr que là, t'as l'air d'un gars qui est dans le début de la crise de la quarantaine. Là. début de la crise de la trentaine, excuse-moi. Est-ce que dans les prochaines semaines ou dans les prochaines années, il y a un désir d'entendre encore plus fort ce moteur-là quand tu pèses sa suce, là, au sens que tu vas t'acheter, je sais pas, moi, une Ferrari, une Corvette. Y a-t-il des plans là, pour Max
Power? Oui, une Corvette. Comme je te disais, là, moi, je vais avoir 70 ans dans 6 ans. Alors, je m'étais dit que pour mon 65e anniversaire, je vais me gâter. Là. Tu sais, fait... Moi, je me souviens, quand j'avais 5 ans, là, moi, il y avait deux affaires que je voulais dans la vie.
Une épouse
en 1960...
une Corvette?
Non. Mieux que ça. La... je voulais une Corvette 67.
Ouais, quand même bon choix.
Ou avoir du poil sur la poitrine comme Sean Connery dans Dr. No.
T'as eu juste le poil?
C'est ça. Mais la Corvette 67, c'était quelque chose, ça aussi. Là.
Oui.
Ces deux-là. Mais après ça, ça s'est gâté avec la C3. Mais,
j'aime bien la C3.
Je vise une C4. Une C4, là, c'est ce qu'ils ont produit entre 84 et 86.
Sûrement pas la 83, là.
Non, sûrement pas la 83. La 84 non plus, là. Avait le moteur, le Crossfire Injection, là, qui ont sorti juste un an, qui a été épouvantable.
Oui, c'est celle qu'on veut le moins, là, la 84.
Ouais, c'est ça. Fait que tu sais... T'arrives 95-96, c'est relativement abordable. C'est toutes les petits bobos, ils ont été corrigés. C'est des voitures que tu trouves en bas de 100 000 km, 160 000 km.
Toujours entretenues, bichonnées.
C'est ça. Puis tu sais, le moteur de ça, là, c'est un 350 pouces cubes. C'est essentiellement le même moteur depuis les années 50. C'est très facile de travailler là-dessus parce que c'est la clamshell là, qui est... Le hood qui rouvre. Là,
c'est énorme.
Tout est à portée de la main. Puis non, ça serait une bonne
quelle
chose.
Couleur la Corvette C4?
Rouge. Il y a un livre qui a été écrit il y a quelques années, là, ça s'appelait « All Corvettes are Red ».
Ah oui!
Soit rouge ou
Silver?
Ça s'appelle « Sebring Silver ».
OK.
Vraiment le silver là, Corvette.
Un peu plus foncé ou un peu plus clair que le gris Hydro-Québec?
C'est plus clair un petit peu que le gris Hydro-Québec.
Qu'est-ce que tu penses de la théorie qu'une Corvette, ça peut être jaune et que jaune? Parce que la Corvette jaune, ça reste quand même...
Non,
ça sacrilège, je pense.
Rien à prouver.
Moi, j'ai toujours trouvé que la Corvette en jaune, c'était la plus belle des versions. Là. Surtout la C4. Qui est,
En jaune,
impossible à ignorer. Là.
Moi, je mange pas de ce pain. Là.
Ou noir, là, dans le pire des cas. Quelque chose à rajouter sur Honda,
non,
qui n'a jamais
fait
de Corvette, hein. Mais quand même, qui a fait quelques voitures sport au fil des années. Mais la S2000.
Oui, S2000, en l'an 2000, d'ailleurs, c'était quelque chose. Je me souviens, moi, j'avais à l'époque, en 2000, j'avais un Honda Accord que j'avais acheté chez Frank et Michel.
On les salue, Frank et Michel.
Oui. Puis le fils de Frank, là, qui est Benoît, je pense, j'avais rentré mon char au service, puis il venait de livrer la première S2000. Elle était silver, mais un peu plus foncé.
Ça a pris une valeur
l'intérieur
incroyable.
En cuir, en peau de vache morte rouge. Puis Benoît, il dit, ouais, Il dit à la réceptionniste, je prends mon après-midi.
Oh, wow!
Il a fait préparer le char.
C'est une voiture que Honda a faite trop peu longtemps, je pense. On devrait peut-être la remettre même sur dans les salles de montre. Ça a pris de la valeur beaucoup. C'est devenu un espèce de modèle culte chez Honda, la décapotable que tout le monde veut.
Ça, puis la NSX, là, oui. Ça, c'était 92, 93.
Acura, en fait, pour nous.
Oui, c'est ça. Mais dans plusieurs marchés, c'était Honda là. Oui. C'était un statement qu'il voulait faire. Il disait, regarde, nous autres, on veut faire un supercar moins cher, plus fiable, comparativement aux Ferrari, Lamborghini.
C'est une Ferrari à la Honda, un peu.
Exactement. Moins cher d'entretien, puis ils ont réussi à faire ça. Puis ça a même influencé les modèles futurs de Ferrari puis Lamborghini. Là.
Ça serait bien, ça, une petite Acura NSX, là?
Non, c'est pas...
Te donner dans le Honda.
C'est fini, ce temps-là, non?
Ouais, c'est ça.
C'est-tu 4 places, ça, un NSX? Je me souviens
non,
pas.
C'est
ça,
deux.
Un 2, pas plus 2.
Ça doit être comme mon Z28, là, tu sais, deux places. Là,
ouais.
Pour la forme en arrière, là, où tu peux pas ouais. rien embarquer.
C'est juste... l'espace sacoche en arrière.
C'est ouais. ça, exactement.
C'est des filles en mini-jupe ou des enfants. Max Power, merci d'être passé à Radio X en ce beau dimanche matin. Toujours un plaisir de t'avoir. La chronique sera évidemment disponible dans les prochaines heures sur radiox.com. L'histoire de Honda, c'était avec Max Power en ce beau dimanche matin. 7h55, c'est l'heure de faire une... En fait, c'est le moment de faire une petite pause. Après, ben, on sera là. Et c'est comme ça, on fait jusqu'à 9h. First gear, it's all right.